l'amour qui meut le ciel et les autres étoiles.
Vago già di cercar dentro ed intorno la divina foresta spessa e viva che agli occhi temperava il nuovo giorno senza più aspettar lasciai la riva prendendo la campagna lento, lento su per lo suol che d'ogni parte oliva.
Dans les jardins de Boboli, tout en haut, il y a une terrasse qui ouvre sur la campagne de Florence, colline d'herbes fraîches et vertes avec des oliviers. Et cette terrasse m'a toujours paru être celle qui a inspiré Bellini dans son allégorie du purgatoire et Dante dans sa représentation du paradis terrestre à la fin du purgatoire, qui est probablement parmi ses morceaux de poésie les plus réussis. C'est le chant 28, où il arrive dans cette étrange nature qui a le pouvoir de se reproduire sans semence, qui germe, qui vit et qui revit sans cesse d'elle-même.
Mais déjà curieux d'explorer, d'embrasser la divine forêt dense et luxuriante qui tempérait aux yeux le jour naissant, sans plus tarder je m'éloignai du seuil et, à pas lents, je pris par la campagne dont le sol embaumait tout alentour de moi. Une haleine légère, un souffle inaltérable et continu glissait sur son visage, sans me gêner plus qu'une douce brise. Les ramures, au vent prompt à frissonner, de ce côté s'inclinait tout ensemble, où le Saint-Mont jette sa première ombre. Mais cependant demeurait assez droite pour que les oiselets qui chantaient à la cime pussent toujours exercer leur talent. Leur cantique en sa joie merveilleuse accueillait dans les rameaux les brises matinales dont le bourdon soutenait leur ramage.
C'est donc ici, c'est-à-dire au paradis terrestre, que ça se passe, c'est-à-dire dans une réalité beaucoup plus réelle que celle de ce jardin, avec les corps que nous sommes là et qui ne sont peut-être pas de vrais corps. Il y a peut-être en ce moment à côté de moi un corps beaucoup plus réel que celui qui parle. Le purgatoire, c'est l'endroit où on passe des plaintes de l'enfer au chant. Et c'est l'endroit aussi où la poésie, dit Dante, doit revivre. Il est étrange de voir comment la purification qu'il imagine passe par l'accumulation des références à l'art. Le purgatoire, c'est un endroit où il n'est question que de peinture, de sculpture, de fresques, de visions, d'apparitions, de messages, de voix, de sentences criées rapidement, un peu comme dans la tempête de Shakespeare. C'est un endroit magique où les anges, les messagers, à chaque instant, se prononcent sans qu'on les ait vus.
La Divina Commedia, Purgatorio, canto 30. Io vidi già nel cominciar del giorno la parte oriental tutta rosata e l'altro ciel del bel sereno adorno e la faccia del sol nascere ombrata, sì che temperanza di vapori l'occhio la sostenea lunga fiata, così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fiori sopra candido del cinto d'oliva. Donna apparve sotto verde manto, vestita di color di fiamma viva, e lo spirito mio, che già contento, tempo era stato che alla sua presenza non era di stupor tremando affatto, senza degli occhi aver più conoscenza, per acculta virtù che da lei mosse, d'antico amor senti il gran potenza.
Parfois j'ai vu quand au lever du jour, le ciel paraît à l'orient tout rose, et le restant orné de bel azur limpide, naître voilée la face du soleil, si bien que son éclat tempéré de vapeur était de l'œil un longtemps supporté. C'est ainsi que du sein d'un nuage en fleurs, qui s'élevait de ses mains angéliques pour tomber à l'entour et sur le char lui-même, sous un voile candide et sainte d'olivier, m'apparut une dame en manteau de sinople, et dont la robe était couleur de flammes vives. Lors, mon esprit, qui depuis si longtemps était resté sans que par sa présence il fût brisé de stupeur et tremblant, bien que mes yeux encore ne la pussent connaître, par la seule vertu secrète qui vient d'elle, de mon ancien amour ressentit la puissance. Le Purgatoire, chant 30e.
Là, après le passage à travers le feu, car pour être définitivement débarrassé du désir sexuel, c'est dit explicitement, il faut passer dans le purgatoire par un mur de feu brûlant, où Dante entre donc avec son vrai corps, tandis que les morts, les esprits, subissent cette peine pendant des années, avant d'être délivrés. Il passe donc dans ce mur de feu brûlant, au-delà duquel l'attend Béatrice, et c'est là qu'est le paradis terrestre. La foresta spessa e viva, la forêt, l'autre forêt, tout à fait contraire, inverse de celle qu'on avait au début, la forêt sombre dans laquelle on était perdu, la forêt qui se reproduit d'elle-même, qui pousse et qui repousse, et qui est l'endroit d'où, en tant que corps, nous n'aurions jamais dû tomber.
So presto, so presto. Oh, presto che gli qui, so presto che gli qui, senza alcun ballo. Tutti, tutti a cavallo, tutti, tutti a cavallo.
Tutti a cavallo, a cavallo, a cavallo, a cavallo, a cavallo, a cavallo.
Tutti, tutti a cavallo, tutti, tutti a cavallo.
Après les chants viendront d'autres chants et de plus en plus de musique et de plus en plus de mouvement et de plus en plus de rapidité dans le mouvement et de plus en plus de feu dans la rapidité du mouvement. Et ça, c'est le paradis, c'est-à-dire un riso dell'universo, c'est-à-dire le rire de l'univers. Et là, Dante a une très curieuse image. Il dit que les esprits dans le paradis sont d'autant plus splendides, ont d'autant plus d'ardeur, de feu, qu'ils sont plus proches de Dieu, et que c'est l'équivalent de ce qu'est pour nous, sur terre, le rire. C'est-à-dire qu'il n'arrête pas de rire, en quelque sorte. Et l'univers est un rire, un immense rire. Étrange vision. Alors qu'en enfer, au contraire, les damnés sont de plus en plus sombres, c'est-à-dire tendent toujours plus vers l'opaque. Encore cette composition alternée, contradictoire, où chaque chose répond sans cesse d'une autre, où tout est en écho, où chaque endroit a son envers, où il n'y a jamais deux choses qui ne soient pas en harmonie. Et la composition de ce poème, bien qu'obéissant à des lois très rigoureuses, est très étrangement aussi comparée par lui à la liberté maximale. dans l'épître 13 à Can Grande de la Scala, où il s'explique sur son paradis. Voici ce qu'il écrit. Il dit que ceux qui vivent de l'intellect et de la raison, étant doués d'une sorte de liberté divine, ne sont astreints à nulle coutume. Ils ne sont donc pas sous la conduite des lois, mais ils conduisent les lois. Le poème passe au-delà de la philosophie et de la théologie. Il est évidemment mystique. En cela, il imite très exactement toute l'opération divine. Quand Dante écrit de son poème que la forme ou façon d'ouvrer est poétique, fictive, descriptive, digressive, très somptive, ça veut dire qui abrège et qui résume en passant outre. Et en outre que cette forme est définitive, divisive, probative, improbative et positive d'exemple, il décrit tout simplement le mécanisme de l'univers. Ça ne veut pas dire du tout que tout cela soit savant, ni particulièrement obscur, bien que ce soit bourré d'érudition, mais que Dante, inventant en quelque sorte la langue italienne, parce que c'est lui qui l'a inventée, ça veut dire aussi que le poème est écrit dans un ton, dit-il, familier, même terre à terre, et dans un parler vulgaire, et le même dont usent les bonnes femmes pour se faire leur compte.
Les actions humaines, si fort qu'on les divise en espèces, s'apprécient et se classent diversement d'après les signes propres de notre nature. En qualité de citoyen, par la loi qui détermine le bon et le mauvais citoyen. En qualité d'homme, par les signes très simples des habitudes, des mœurs et du langage. On juge de même par eux les caractères qui distinguent la race latine. Or, ces signes sont les propriétés communes à toutes les cités italiques, non à une seule. Ils peuvent ainsi faire discerner la belle langue vulgaire qui parfume chaque cité sans être circonscrite dans aucune. Seulement, sa beauté se manifeste à divers degrés, plus dans l'une que dans l'autre. Ainsi, Dieu, la plus simple des substances, se manifeste plus énergiquement dans l'homme que dans la brute, dans l'animal que dans les minéraux que dans le ciel, dans le feu que dans la terre. L'unité, le nombre le plus simple, se révèle bien mieux dans le pair que dans l'impair. La plus simple couleur, le blanc, dans le citron que dans le vert. Avec un tel flambeau, nous découvrirons la langue illustre dont nous cherchons la trace. Dans le Latium, qui appartient lui-même collectivement à toute ville du Latium, elle deviendra le signe qui va nous servir à évaluer tous les idiomes vulgaires de bourgeoisie latine. De l'éloquence en langue vulgaire.
Le point décisif de l'opération qui est en cause ici, on peut le résumer d'un mot qui a été inventé par Dante, qui est le mot transhumanar, c'est-à-dire transhumané, ou plus exactement, si on veut, passer à travers l'humanité. C'est très différent de la notion de surhomme, de l'ubermensch, de Nietzsche, par exemple. C'est très différent, évidemment, de la notion d'homme. Transhumané, c'est passer à travers l'état où nous sommes. Et bizarrement, transhumané, c'est-à-dire emprunter la forme d'un corps, autrement dit venir de plus loin que lui et aller plus loin que lui, c'est quelque chose qui implique pour Dante une convergence entre la vision et l'écoute. voir, c'est entendre, entendre, c'est voir. Il y a comme une sorte de mélange de tous les sens, finalement, vers une sorte de point unique. Ce point qui représente, dans le paradis, l'apparition la plus élevée. Un point aveuglant qui éclipse toutes les autres lumières. Un point dans un point. Et c'est de ce point que tout le rythme du poème essaye de rendre compte.
Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo cominciò gloria tutto il paradiso, sicché mi inebriava il dolce canto. Ciò che io vedeva mi sembrava un riso dell'universo.
Gloire au Père et au Fils et gloire au Saint-Esprit, entonnèrent les chœurs de tout le paradis d'un chant si doux que j'étais enivré. Tout ce que je voyais me semblait un sourire de l'univers, tant cette heureuse ivresse entrait en moi par l'oreille et les yeux. Ô sainte joie, allégresse ineffable, ô vie entière et de paix et d'amour, ô sans désir, abondance assurée. Le paradis, chant 27e.
Divina Commedia, Inferno, canto 33. Se avessi lettor più lungo spazio da scrivere il pur canter in parti, lo dolce ber che mai non m'avria sazio, ma perché piene son tutte le arti, ordine di questa cantica seconda, non mi lascerò più rirlo fre parto. Io ritornai dalla Santismonda, rifatto sì come piante novelle, rinnovellate di novella fronda, puro e disposto a salire alle stelle.
Si je pouvais, lecteur, m'étendre davantage, j'essaierais de chanter le breuvage si doux dont je n'eusse jamais été rassasié. Mais puisque tous les feuillets sont remplis que j'avais destinés à ce second cantique, le frein de l'art m'interdit de poursuivre. Je m'en revins de l'onde sacro-sainte, régénéré comme une jeune plante que rafraîchit un feuillage nouveau, pur et tout prêt à monter aux étoiles. Le Purgatoire, chant 33e.
L'enfer se termine par le mot « étoile ». Le purgatoire aussi, le paradis aussi, stelle. À la fin de l'enfer, quand Virgile et Dante, après avoir contourné l'immense corps de Satan planté au centre de la terre et être passé à travers un petit ruisseau, voient le ciel s'ouvrir devant eux, Dante conclut par « E quindi uscimo a riveder le stelle ». À la fin du purgatoire, Dante écrit qu'il est pur et prêt à monter aux étoiles. Puro e disposto a salire alle stelle. Et enfin, à la fin du paradis, après l'éclair qui lui fait comprendre dans un évanouissement ce qui est incompréhensible, il devient lui-même, en première personne, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. L'amor che muove il sole e l'altre stelle. Les étoiles sont, dit-il, comme des meurtrières, comme des interstices, par lesquels, en somme, Dieu ou l'amour voit les mondes. Nous, nous voyons les étoiles au-dessus de nous, mais après une sorte de retournement complet, le poème, et Dante à l'intérieur du poème, et Dante devenu Dieu à l'intérieur de son poème, regarde les mondes à travers les étoiles. Il est de l'autre côté des étoiles et les étoiles lui servent Dieu pour regarder le réel. Pendant toute la comédie, tout le voyage de la comédie, se pose la question du corps de Dante. En effet, il est le seul vivant à se promener au milieu de fantômes, d'ombres, d'esprits, qui n'arrêtent pas de s'étonner de voir parmi eux un corps qui fait de l'ombre, un corps en chair et en os, un corps vivant, alors qu'eux sont morts. Dante insiste beaucoup là-dessus. Il est le seul corps vivant de tous ces corps. Les métamorphoses des corps en enfer, c'est-à-dire aussi bien sur Terre, on voit qu'elles affectent ces métamorphoses l'identité par dédoublement et annulation. Et l'animal et l'homme se transforment sans cesse l'un dans l'autre. Comme s'il y avait une sorte de dévoration permanente et réciproque, et une stupéfaction devant cette dévoration, à partir d'une morsure, la morsure de la faim, qui mène à l'anthropophagie, la morsure de la faim sexuelle, qui tient les corps dans une passion de plus en plus sombre, la faim de l'argent, la cupidité qui est sans cesse dénoncée de part en part. Alors que, dans le paradis, ce qui représente le mouvement, c'est la soif innée, dit Dante, la soif perpétuelle, la soif du désir, de plus en plus exacerbé, de plus en plus rapide et brûlant.
Les deux têtes déjà s'étaient fondues en une, quand il y apparut deux visages mêlés en une seule face où se perdaient deux êtres. De leurs quatre abattis se reforment deux bras, le ventre, la poitrine et les jambes, les cuisses, en membres sont changés comme on n'en vit jamais. Tout aspect primitif était ici brouillé. L'image pervertie paraissait double et nulle, et c'est ainsi qu'à pas lents il s'en fut. Comme un lézard qui, sous la grande ardeur d'un jour caniculaire, en changeant de CP, semble un éclair qui traverse la route. Tel apparut bondissant sur le ventre des deux autres pêcheurs un serpenteau de flamme, livide et noir, ainsi qu'un grain de poivre. Et juste au point où, avant que de naître, nous prenons aliment, il transperça l'un d'eux, puis à terre tomba, étendu devant lui. Le blessé regardait le reptile sans rien dire. Mais il bâillait tout debout sur ses pieds, comme assailli de sommeil ou de fièvre. D'un tel accord, ils se correspondirent que le serpent fendit sa queue en fourche, tandis que le blessé serrait ses pieds ensemble. Cuisses, jambes et pieds d'eux-mêmes, entre soi sa colère, si bien qu'en un rien leur jointure ne laissa plus saisir aucun signe apparent. La queue fendue prenait ici la forme qui se perdait ailleurs, et tandis que son cuir devenait souple, il durcissait chez l'autre. Je vis rentrer les bras dans les aisselles et les deux pieds de la bête, si courts, s'allonger d'autant plus que s'écourtaient les bras. Puis les pattes d'arrière, ensemble retordues, prirent l'aspect du membre que l'on cache. Quant au damné, du sien il vit sortir deux pieds. Tandis que la fumée qui les voile tous deux et change leur couleur faisait pousser à l'un une toison qu'elle épilait à l'autre, la bête se dressa de son haut d'homme chu, sans se quitter pourtant de ses regards impies sous l'empire desquels il changeait de museau. Celui qui était droit tira le sien aux tempes, et de l'excès de chair qui s'y vint amasser, sur le plat de ses joues sortirent deux oreilles. Et le surplus qui ne vint en arrière, et sur place resta, fit un nez au visage, et comme il faut, les lèvres lui renfla. Celui qui gisait chasse en avant le museau, et dans son chef retire ses oreilles, comme le limaçon y retire ses cornes. La langue, qu'il avait simple et preste à parler, se fend, tandis que la langue fourchue se referme chez l'autre, et la fumée s'arrête. L'âme damnée, changée en bête fauve, par le ravin prend la fuite en sifflant, l'autre, en parlant, la suit et lui crache au derrière. La Divine Comédie, L'Enfer, chant 25e.
Peut-être qu'il faut nous habituer à ce qu'il y ait de grandes fractures dans le temps. Que le temps ne se développe pas calmement, pas à pas, mais par crevasses, par éboulis, par coupures. Il y a eu une grande fracture entre le XIIIe et le XIVe siècle. Dante en témoigne. Et je crois qu'il y en a une énorme maintenant, dans le XXe siècle et vers le XXIe siècle. Et ces deux fractures sont appelées à dialoguer entre elles. Qu'est-ce que nous avons cru pendant quelques siècles ? Que l'humanité se débarrassait de toutes ces histoires d'enfer, de toutes ces représentations dites moyenâgeuses, médiévales, d'un autre âge, que tout cela était dépassé, que le mal était vaincu. Eh bien, le mal, il est revenu en force. Il s'est montré, à visage découvert. Le XXe siècle est celui du mal le plus radical, le plus excessif, le plus nu que l'humanité ait peut-être vécu. Le mal, ça a été le camp nazi, ça a été le camp stalinien. L'enfer de Dante à côté nous paraît être une représentation très minimale de ce que l'on peut faire dans cet ordre de choses. C'est un enfer qui n'est pas à chercher quelque part dans un autre monde, mais dans notre monde. Il est parmi nous, sans cesse, et à chaque instant, au moment où je parle, quelqu'un, en ce moment même, est torturé quelque part dans le monde. Nous en prenons conscience de façon plus aiguë aujourd'hui, parce que nous savons que l'information est à chaque instant à notre portée. Nous savons qu'au moment même où nous parlons, toutes les informations communiquent, et le cri des torturés et le cri des persécutés est une chose que nous choisissons de ne pas entendre parce que sans cela nous ne pourrions plus vivre et il faut bien que nous vivions. Par conséquent, je crois qu'il y a une profonde exactitude dans le fait que, par exemple, on est appelé spontanément les choses qui dépassent un peu l'imagination courante, dantesques. Il y a des moments où la mémoire se ramasse, où le fleuve du temps sort de lui-même, sort de son lit de sommeil. Et dans ces moments-là, qui sont des moments de mutation, le mal se montre avec son vrai visage. Il y a une profonde justesse dans le fait d'avoir appelé Solzhenitsyn le Dante de notre temps. C'est vrai. Seulement voilà, c'est un Dante qui ne décrit que l'enfer, et de l'enfer sur de l'enfer, et l'enfer permanent sur l'enfer. C'est un Dante sans paradis.
Où est Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio,